franceinter.fr.
Voilà la Seine qui devrait atteindre un peu moins de 6 mètres hein, maintenant selon les dernières informations avant d'entamer donc une décrue longue et difficile. On fait le point justement sur ce nouvel épisode des crues parisiennes mais aussi ailleurs en France à la une aujourd'hui.
Le bruit que vous entendez en ce moment, c'est le bruit même que fait la Seine au pont d'Alma. La Seine et toutes les voies de communication fluviale sont depuis quelques jours en crue. La Seine, le 22 novembre, atteint la cote de 2,96 m. Le 27, 4,54 m. La route du charbon est coupée, les péniches ne peuvent plus passer sous les ponts. Le 28, 4,69 m. Les quais et les grues sont inutilisables. Le 29, 4,90 m. Certaines voies ferrées, comme celle des Invalides, sont partiellement couvertes et les trains ne peuvent plus rouler. Hier, 4 décembre, la Seine atteint 6,15 m. Elle a franchi les berges. C'est la première fois depuis 1924 qu'elle est aussi grosse.
Voilà, ça c'était en 1944. La Seine, la Marne, le Doubs, le Rhin aujourd'hui qui sont à des niveaux très hauts. Plusieurs inondations sont en cours, vous le savez, en Ile-de-France. L'eau va continuer à monter, au moins jusqu'à demain. Les sols gorgés d'eau après un mois de décembre très pluvieux n'épongent pas assez vite visiblement. Et les prochaines semaines vont être sous haute surveillance. On fait le point sur ces crues et leurs conséquences avec notre invité Axel.
Oui Mathieu, nous recevons la géographe Magali Reguedza. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'ENS, chercheur au laboratoire de géographie physique de Meudon, spécialiste du risque naturel. Alors, 6 mètres 10 en 2016, presque 6 mètres prévus pour demain. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à des crues importantes et régulières en Ile-de-France et à Paris ?
Alors, ça a été très irrégulier par le passé. Historiquement, c'est des crues qui reviennent assez régulièrement. Leur occurrence est à peu près, en moyenne, 20 ans. Donc, c'est 20-30 ans. Donc, c'est même pas des crues, pour Paris en tout cas, c'est même pas ce qu'on appelle des crues majeures, puisque les crues majeures dépassent 7 mètres au pont d'Austerlitz et la crue Sandenal est à 8,62 mètres. Donc, on est sur des épisodes récurrents. S'habituer, c'est surtout qu'on a eu de la chance, parce que depuis 1955... on n'a plus de débordement dans Paris et depuis 82, on n'avait plus vu la Seine monter aussi haut.
Comment est-ce que sont établis les modèles de prévision pour les crues sur le long terme, les chiffres que vous nous donnez ?
Alors, c'est une combinaison entre des données qui sont fournies par Météo France, qui a profondément amélioré ses prévisions, et puis des modèles qui permettent en fait de prendre en compte la topographie des terrains, l'urbanisation. On inclut aussi des données historiques, et donc on arrive comme ça à anticiper ces inondations, mais comme on l'a vu là, hein, on a une visibilité finalement assez courte, 48-72 heures. Donc là, les fourchettes qui ont été données, elles sont bonnes, hein, ils attendaient un pic à 5,80, 6,20, on est vraiment dans la fourchette. C'est très très compliqué à prévoir, c'est pas dû à l'incompétence des prévisionnistes, c'est simplement que structurellement, c'est pas possible de prévoir ça.
Alors, quels sont les départements où l'eau va continuer à monter ce week-end ?
Alors, pour l'instant, donc, l'eau monte sur certains affluents, en particulier sur les affluents comme la Marne. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des évacuations en Seine-et-Marne, on a des évacuations aussi dans le Val-de-Marne. On a aussi des cours d'eau plus proches de Paris qui sont en train de monter, hein, Lyon, des régions qui ont été aussi touchées en 2016 déjà. Donc c'est aussi dans la récurrence, c'est difficile pour les populations.
Au-delà de la région parisienne, d'autres régions de France aussi sont touchées hein, en
Alors,
même temps.
Oui. Alors d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en 1910. Hein. Il y a eu tout l'est de la France en réalité, puisque c'est les mêmes systèmes dépressionnaires hein, qui touchent ces bassins. Le Rhin en 1910 était en crue centennale. Et puis on a le Jura.
En crue centennale en 1910.
Oui,
Pourquoi on s'en souvient pas ?
Parce que l'Alsace était allemande. Et donc évidemment, on a perdu un petit peu la mémoire. Il y a des collègues qui sont en train de travailler là-dessus justement. Et puis on a le Jura et le Doubs aussi. C'est pas mal monté. Là, le Loiret est aussi en train d'avoir des crues. Donc voilà, c'est quand même une grande partie nord-nord-est qui est touchée. Et c'est pour ça que c'est préoccupant, c'est parce que ce sont de très vastes territoires.
Est-ce que les modèles de prévision sur des temps longs commencent à prendre en compte le changement climatique dans leurs réflexions, dans leurs données ?
Alors c'est extrêmement compliqué, on a pour l'instant très peu de certitudes. Les premières études semblent indiquer qu'on aurait moins de phénomènes, mais beaucoup plus intenses. Donc une irrégularité qui là aussi est problématique, parce qu'on va encore plus oublier qu'on est sous la menace de ce genre d'événements. Et quand ils vont arriver, ils seront probablement plus forts et peut-être un peu décalés dans le temps.
Hasard du calendrier, l'OCDE a remis mardi un rapport plutôt encourageant sur la gestion des crues en Ile-de-France. Est-ce qu'on le constate sur le terrain en ce moment, la situation est mieux maîtrisée qu'en 2016 par exemple ?
Alors ça dépend ce que vous appelez maîtriser. On a la chance d'avoir aujourd'hui des gens sur le terrain qui sont extrêmement compétents. Je pense aux pompiers, aux policiers, aux gendarmes, voilà. On a aussi dans les cellules de crise des gens qui ont été formés par l'exercice Sequana, par les événements récents. Maintenant, ce que rappelle l'OCDE, c'est qu'il y a encore énormément de progrès à faire. Il faut vraiment une collaboration renforcée entre les acteurs. Il faut vraiment aussi un portage politique qui fasse qu'on investisse enfin sur ces questions-là à la hauteur des enjeux.
Mais ça coûte moins cher d'investir au fond que de devoir payer plus tard des catastrophes majeures, non ?
Je vous donne un chiffre, hein, une crue de la Seine équivalente à 1910 à Paris et dans la petite et grande couronne, c'est 30 milliards d'euros immédiatement. Un exercice comme celui qu'on a fait en 2016, c'est 2 millions.
Ce qui est déjà une grosse différence. La décrue va commencer la semaine prochaine. Combien de temps ça va mettre ?
Ça va être long. Ça va être long et surtout là ce qui se passe c'est que les nappes sont montées et c'est pour ça que beaucoup de gens ont des caves qui sont inondées donc les nappes réagissent encore en décalé donc ça va être assez long. En plus s'il repleut ça risque de remonter parce que la Seine en réalité et les autres fleuves ont des pics multiples donc ça veut dire que les gens vont devoir attendre avant de pouvoir nettoyer, sécher et ensuite faire l'état des lieux des dommages. Il va falloir attendre pour chiffrer.
Est-ce qu'il y a des risques sanitaires particuliers en ce moment à Paris, en Ile-de-France ?
Il faut faire très attention à deux choses. D'une part, le courant est fort, donc ne vous approchez pas du fleuve, faites attention, ne marchez pas dans les zones inondées parce que les plaques d'égout peuvent sauter, parce que là aussi le courant peut être fort. Deuxièmement, l'eau elle est sale, elle est polluée parce qu'elle passe sur des terrains qui sont contaminés par les voitures, par tout ce qui traîne dans les villes. Donc il vaut mieux pas la toucher. Et quand on va nettoyer les caves, quand on va nettoyer les déchets, faire très attention aussi, mettre des gants, mettre des masques. Normalement, c'est prévu, mais beaucoup de particuliers vont vouloir aller vite. Il faut faire attention.
Cette crue de 1910, on l'attend, celle qui aura la même ampleur que 1910. Et pourtant, on semble ne pas vouloir ou ne pas savoir qu'elle va venir.
C'est tellement gros, c'est tellement loin, c'est tellement fou. Et puis voilà, on est sur la région capitale. Alors les gens se disent, mais toujours Paris, c'est les Parisiens, encore les Parisiens. Il faut quand même savoir que cet événement, s'il arrive un jour, ça va concerner l'ensemble des Français par effet domino. Donc il faut vraiment qu'on s'y prépare tous. Il n'y a pas que ces risques-là sur le territoire, hein, mais celui-là, c'est vraiment un risque important.
Mais il pourrait y avoir des crues centenales aussi ailleurs en France.
Hein, il y en a tout le temps. Enfin, tout le temps, il y en a régulièrement. La crue centenale, ça veut juste dire, c'est une chance sur 100 par an que ça arrive. 2 chances sur 3 sur une vie humaine moyenne, c'est-à-dire 80 ans.
Merci beaucoup Magali Righezza pour ces informations. Axel, on se retrouve lundi.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la plus vieille preuve de la présence d'Homo sapiens hors d'Afrique. Des archéologues ont découvert en Israël un fragment de mâchoire datant de 180 000 ans, retrouvé sur le mont Carmel en 2001. Ces fossiles reculent la date de migration de l'homme moderne hors d'Afrique de 50 000 ans. Étudié pendant plusieurs années par 3 équipes différentes, il n'y a aucun doute possible concernant son origine et son âge. Pourtant, les experts, cela indique selon eux que les périodes d'interaction avec les autres représentants du genre Homo déjà hors d'Afrique ont été bien plus long qu'on ne le croyait. Cette période vient également corroborer un modèle selon lequel des hommes modernes auraient émigré d'Afrique il y a plus de 220 000 ans. Nous reviendrons plus longuement sur cette découverte mardi dans la Une. Après la brebis de lit, des chercheurs ont réussi à cloner des singes nés à l'Institut des neurosciences à Shanghai. Les 2 macaques crabiers se nomment Zong Zong et Wawa, beaucoup plus complexe que le clonage d'un mouton. Celui des 2 singes a mis 20 ans à voir le jour. Pour cela, l'équipe a utilisé des noyaux de cellules fœtales et des modulateurs épigénétiques. Au-delà de la prouesse technique, ce clonage est annoncé par les Chinois comme un atout pour la recherche. Il soulève néanmoins de nombreuses problématiques éthiques comme le traitement des animaux dans la recherche, mais aussi la faisabilité du clonage humain. Et puis l'horloge de l'apocalypse remontée à minuit moins 2, inventée en 1945 par des chercheurs du projet Manhattan. Elle dénonce le danger d'une catastrophe globale du fait des menaces nucléaires, écologiques et technologiques. L'aiguille n'avait jamais été aussi proche de minuit, heure symbolique de la catastrophe depuis 1953, année pendant laquelle les États-Unis et l'URSS testaient la bombe à hydrogène. Le bulletin des scientifiques de l'atome, composé d'experts sur ces thématiques et qui gère l'horloge, met en cause les essais nucléaires nord-coréens et l'imprévisibilité du président Trump. Il critique également le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, alors que les émissions de gaz à effet de serre sont toujours en hausse.